I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 4 ans, et dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, permettre au bébé de mieux téter pour mettre en place un allaitement serein en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de famille qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels tout spécialisés dans le domaine qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes et vous permettront de vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif, il est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais très reconnaissant de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. On démarre aujourd'hui une série de 3 épisodes pour découvrir des expériences de mamans dont les bébés sont nés porteurs de fentes labio-palatines. C'est dans l'épisode 85 que vous retrouverez les informations d'une consultante experte dans le domaine pour vous donner les clés pour allaiter un bébé qui est porteur de fentes. Mais dans cet épisode et les suivants, ce sont donc des mères que vous entendrez. J'ai voulu donner la parole à plusieurs d'entre elles, d'abord au sein d'un même épisode, mais le trois voix était confusant pour la compréhension, donc je suis revenue aux bonnes vieilles méthodes. Une petite interview pour chacune, pour ne pas s'en mêler les pinceaux, le sujet en lui-même étant déjà assez complexe. C'est donc aujourd'hui Madeleine qui prend la parole pour vous raconter son histoire et celle de Julia, 11 mois, et de leur allaitement. Cet allaitement, c'est une histoire de famille, comme dit Madeleine, une aventure qui fonctionne tant que ses 4 membres s'y retrouvent. Et comme régulièrement dans les allaitements de bébés porteurs de fentes labio-palatines, c'est aussi l'histoire d'un tire-allaitement que Madeleine va vous raconter, qui, on le sait, ne sont pas toujours de tout repos. Alors place à Madeleine, à Julia et à leur famille dans Milkshaker. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Madeleine, bienvenue dans Milkshaker.
Merci, bonjour.
Alors Madeleine, on est là aujourd'hui pour que tu nous racontes ton histoire, qui est toute particulière puisque tu as un bébé qui est né avec une fente labio-palatine et que tu as décidé de l'allaiter. Et donc j'avais envie de recueillir ton histoire d'allaitement pour savoir comment tu t'y es pris, comment ça s'est passé et voilà, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pour allaiter ton bébé. D'abord, je veux bien que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es, ce que tu fais dans la vie et si tu as des enfants et si tu as déjà allaité avant cette expérience-là.
Donc, je m'appelle Madeleine, je vis en Bretagne, j'ai 31 ans. J'ai une petite fille de 3 ans et demi qui s'appelle Roxane et une petite Julia qui a 11 mois depuis quelques jours. Donc, Roxane, elle est allaitée depuis sa naissance. En allaitement exclusif pendant les 3 premiers mois. Et puis après, j'ai repris le travail, donc j'ai tiré mon lait. Okay. Et à date, elle est toujours allaitée. Et donc Julia, elle est née avec une fente labio-palatine unilatérale gauche. Mmh. Et voilà, donc ça a été compliqué pour moi de se projeter forcément sur un allaitement, parce que dès l'annonce, on m'a dit que ça allait être compliqué. Donc je suis partie dans une aventure de tire-allaitement depuis sa naissance. Donc, je suis en co-allaitement. Donc, j'ai ma grande qui est toujours au sein et ma petite qui est toujours en enfin allaitée via le tire-lait.
Alors, quand tu as su que ton bébé allait naître avec une fente labiopalatine, qui t'a dit que ça allait être compliqué de l'allaiter ?
À peu près tout le monde, je crois. La sage-femme, le gynéco, le chirurgien. Ouais, globalement, tout le corps médical.
Ok, et du coup, tu t'es pas imaginé une seule seconde pouvoir la mettre au sein. C'est quand même quelque chose que tu as essayé à sa naissance ou même pas ?
Si, si, c'est parce que c'est quelque chose qui me tenait très à cœur et ça a été un deuil qui a été vraiment compliqué, compliqué à faire pendant la grossesse. Parce qu'avec ma grande, j'ai vécu vraiment une belle aventure et que je poursuis. Et donc, j'étais loin de m'imaginer que ça allait être différent avec ma deuxième. Donc, en fait, voilà, ce que j'ai cherché à faire, c'est récupérer un maximum d'informations, que ce soit auprès de professionnels, donc une IBCLC qui était bien renseignée sur le sujet, qui m'a aidée. Je suis passée aussi par l'association de l'Or Blanc, où j'ai pu avoir être en contact avec donc une marraine qui m'a ensuite redirigée vers des mamans qui ont aussi eu à faire face à ce problème et qui m'ont pu faire un retour d'expérience et un témoignage. Et voilà, mon idée, c'était vraiment d'essayer de prendre un maximum d'informations, de conseils, d'astuces. Et puis, pour essayer, en fait, le jour de sa naissance, pour me dire que voilà, j'avais essayé, voilà, j'avais mis en place tout ce que je pouvais pour essayer de la faire téter au sein et que j'avais pas de regrets si ça marchait pas. Et que moi, j'avais tout essayé. Donc, quand elle est née, on l'a mise au sein pour la tétée de bienvenue, voilà, ne serait-ce que pour le premier contact et pour le plaisir, même si ça n'a pas été une tétée efficace. Et voilà, ce qu'on m'avait dit, c'est qu'avec sa fente, elle n'était pas en mesure de faire l'étanchéité, et donc une succion efficace. Donc, il y avait quand même peu de chances que je la nourrisse de cette façon. Après, en chambre, quand on est remonté en chambre, voilà, j'ai essayé encore. J'ai essayé aussi avec le personnel qui était présent, parce que je leur avais fait part de ce souhait et que vraiment, ça me tenait très, très, très à cœur. Je me souviens même une fois, on devait être à... Il va y avoir la pédiatre, moi, mon bébé et une auxiliaire puère. Et voilà, on était à six mains en train d'essayer de faire téter ma puce. Et là, j'ai dit stop, on arrête quoi.
C'est trop.
Pour essayer de lui trouver une position qui soit favorable. Après, on a essayé de mettre en place un bout de sein.
Mm-hmm.
Enfin voilà, elle s'énervait. Moi, j'en profitais pas du tout. Plus elle s'énervait, plus elle avait faim. Et on est rentré dans un truc où, voilà, soit je lui proposais pas au bon moment. Et quand je lui proposais, c'était trop tard. Elle avait déjà trop faim. Enfin voilà, on n'a pas réussi en tout cas à trouver notre rythme de croisière. Donc très rapidement, dès le lendemain en fait, je suis partie dans une aventure de tire-allaitement.
Alors du coup, ce tire-allaitement, tu l'as mis en place dès J2 finalement. Comment se nourrit Julia pour cet allaitement? Avec quel contenant elle prend le lait?
Alors au tout début, on a essayé avec la pipette, ça marchait bien, mais on a été assez limité en termes de quantité rapidement.
Et oui.
Après, on est passé à la seringue, pareil, la quantité limite. On a essayé la soft cup, mais on n'a pas trouvé ça hyper pratique, ça en mettait un peu partout.
Ouais.
Je sais pas si c'est l'effet de la fente ou pas, mais enfin voilà. Et je voyais mon lait qui coulait en dehors de sa bouche, et franchement, j'avais tellement de mal à le tirer déjà que ça me faisait trop mal au cœur, donc j'ai dit stop. Même pour elle, fallait la changer et tout, elle était mouillée, ça n'avait pas d'intérêt.
D'accord.
Donc c'est pareil, assez rapidement, en 3-4 jours, on est passé au biberon, ce qu'ils appellent le spécial need, là, avec la tétine Aberman.
D'accord. Qu'est-ce que c'est que cette tétine? Elle vient d'où? Qu'est-ce qu'elle a de particulier?
Donc c'est la tétine spécial need, la tétine Aberman de chez Medela. Donc en fait, c'est une tétine rallongée avec une valve. Et en fait, la personne qui donne le biberon, donc elle peut faire venir le lait dans la tétine. Et puis après, avec un système de pression avec les doigts, on aide le bébé à récupérer le lait dans la mesure où le bébé est pas capable de coincer la tétine entre sa langue et son palais.
Oui, d'accord. Parce que donc Julia, elle a une fente labiopalatine qui va assez loin sur le palais et donc qui fait communication avec la sphère ORL, la cavité nasale. Donc ça, c'est le principe des fentes labiopalatines, mais assez profonde pour qu'elle puisse à aucun endroit en fait venir appuyer vraiment sa langue là-haut et ensuite faire la dépression, c'est ça?
Alors ça, c'était vrai au début. Après, assez rapidement, quand elle a grandi en fait et qu'elle a pris du tonus, Nous, on ne l'était plus du tout.
D'accord.
Elle faisait elle-même avec sa langue, elle avait la force de... Soit elle positionnait la tétine du côté droit où elle n'avait pas sa fente.
Ouais.
Je pense que... Enfin voilà, elle a trouvé son astuce à elle, en fait, pour être autonome.
D'accord. Et ça, au bout de combien de temps elle a trouvé ?
J'aurais pu dire, mais ça n'a pas été très long. Je dirais 3 mois. Ça a été assez rapide. Hein.
Est-ce que, à ce moment où elle se met à trouver une solution, tu t'es dit, tiens, est-ce que j'essaye de la remettre au sein ? Ou non, t'avais fait le deuil de ce projet-là et tu t'es dit, maintenant, on est bien comme ça, ça roule. Est-ce que c'était envisageable, déjà, de la remettre au sein plus tard ?
Après, c'était sûrement envisageable. Est-ce que je l'ai envisagé ? En fait, j'y ai beaucoup pensé, mais je ne l'ai jamais osé. Parce que déjà, ça demandait une énergie folle entre ma grande, ouais, qui est encore au sein, le tire-lait qui revient toutes les 3 heures, ouais, plus lui donner le bib. Voilà, c'est un rythme quand même hyper effréné. Ça a été hyper difficile pour moi à J+2, J+3, là, de lui donner le biberon. Parce que clairement, j'en avais pas envie.
Ah ouais.
Et il a fallu que je chemine. J'avais pourtant cheminé pendant la grossesse, mais pas suffisamment à l'époque pour me dire qu'effectivement, elle allait pas y arriver comme moi je l'avais souhaité, et qu'il allait falloir qu'on trouve notre système à toutes les deux. Et avec toute cette énergie qui a été mise en place, j'ai pas, voilà, faute de temps ou faute de savoir comment faire, j'aurais bien aimé faire ne serait-ce que de la tétée câlin, parce que finalement je sais qu'elle n'arrivera pas à se nourrir comme ça, mais voilà, j'ai pas trouvé le moment, j'ai pas trouvé la façon de le faire.
D'accord.
J'ai peut-être pas osé non plus, et parce qu'on était partis dans une relation complètement différente. Enfin, voilà, après quand elle est quand même dans mes bras, hein, quand elle prend le biberon, hein, c'est pas le souci, mais il y a pas ce côté contact direct, en tout cas, voilà.
En tout cas, t'avais cheminé dans un sens et il était plus trop question de recheminer dans l'autre.
C'est ça. Alors après, voilà, les dents ont poussé aussi. Et ça m'a fait peur. Enfin, je suis pas rassurée, pour le coup, de la remettre au sein. Voilà. Après, c'est encore quand même quelque chose que j'ai dans un petit coin de ma tête, que j'ai pas totalement abandonné. J'ai vu l'orthophoniste la semaine dernière, dans le cadre du suivi pour Julia. Et voilà, elle me proposait éventuellement au prochain rendez-vous, là, au mois d'avril, d'essayer de refaire, voilà, ne serait-ce qu'un contact ou une mise au sein pour la partie câlin.
Okay.
Au moins essayer. En fait, je ne sais pas comment m'y prendre, en fait.
D'accord, oui. Là, t'as besoin d'accompagnement si jamais tu tentes quelque chose comme ça.
Et je ne sais pas vers qui me tourner, pour le coup, pour avoir de l'accompagnement.
Vers ton IBCLC qui était spécialisée là-dedans, non ?
Ouais, après, elle n'est pas sur place. Enfin, elle est, oui. Je ne peux pas la voir physiquement, en fait. Je crois que j'ai besoin de quelqu'un à côté de moi qui me guide un peu.
D'accord.
Mon instinct de maman me fait un peu défaut, là.
Ouais, d'accord. Bah, c'est vrai que c'est difficile quand, en plus, t'as allaité ta première, t'allaites toujours ta première, et tout a été beaucoup plus simple, j'imagine, que là. Alors, ça fait un peu perdre confiance dans ce qu'on sait faire, c'est ça. Concernant le suivi, justement, là, tu en parlais de Julia, les éventuelles opérations qu'elle a, enfin, les opérations qu'elle a ou qu'elle va avoir. Comment ça se passe pour elle ?
Alors, Julia, elle s'est fait opérer à 7 mois.
Ouais.
Donc à Rennes, avec fermeture du palais mou, le fond du palais,
ouais,
et reconstruction de la lèvre et de la narine.
D'accord.
Donc suite à ça, elle a eu 4 mois de conformateur, donc c'est un petit module en plastique qu'on met dans les deux narines pour éviter qu'elle s'affaisse.
D'accord.
Et qu'on maintient avec un scotch sous le nez.
Pendant 4 mois.
Ouais, donc là, tu vois, on est le 7 mars et on l'a enlevé samedi, et c'est trop le pied.
Ah, génial.
Parce qu'en fait, on profite enfin de son visage.
Ouais, d'accord. Oui, parce que du coup, la première reconstruction qu'elle a eue, ça aura été à 7 mois. Parfois, ça arrive plus tôt, en particulier au niveau de la lèvre. Ils peuvent essayer de reconstruire plus tôt, mais pour vous, ça aura attendu 7 mois. Donc en fait, tu viens de redécouvrir ton bébé, là.
Ouais, alors après, le conformateur, il... On le changeait et parfois il tombait, et quand il tombait, on l'enlevait pour le remettre, mais c'est pas pareil, quoi. Voilà.
Donc, en termes d'alimentation, pour elle, l'opération a changé quelque chose, ou vous êtes resté sur le même rythme et ça s'est bien passé ? Elle est toujours avec cette même tétine qui fonctionne pour elle ?
Alors, on est toujours avec cette même tétine parce qu'elle fonctionne, pour le coup, et que le chirurgien nous a dit qu'on pouvait continuer avec. De toute façon, elle a toujours sa fente au niveau du palais dur.
Ouais.
Donc, voilà, il y a toujours... Il manque toujours un endroit pour qu'elle puisse faire une tétée, même avec le biberon, je veux dire qu'elle puisse appuyer facilement. Et puis ça marche, donc je t'avoue qu'on n'a pas cherché autre chose.
On ne va pas changer une équipe qui fonctionne, ouais, bien sûr.
Ouais, non, ça marche, c'est son repère, donc Voilà, on est toujours avec ce système-là.
Ok, très bien. Elle a d'autres opérations qui viennent prochainement. C'est quoi la suite pour elle ?
La suite, c'est de refermer le palais dur. Donc là, j'attends des nouvelles du chirurgien. Je pense qu'elle repasse sur la table d'opération dans 6 mois.
D'accord.
Entre 6 mois et 1 an.
Ok. Et en parallèle de ça, tu as un suivi avec une orthophoniste, tu disais ?
Alors oui, qui démarre toujours, tout juste, pardon,
ouais.
Pour vérifier alors, son alimentation.
Oui, j'allais te poser la question de la diversification au milieu de tout ça, puisque elle a 11 mois, donc tu as déjà commencé toute la diversification, j'imagine.
Oui, alors avec ma grande, on avait fait la DME.
Ah.
Voilà, donc là, pareil, il faut tout réinventer. J'ai pas eu la réponse de savoir si je pouvais le faire ou pas avec Julia.
D'accord.
Je n'ai pas su à qui poser la question, mais voilà. Et puis, on avait quand même l'impression du fait qu'il fallait qu'elle s'alimente à la cuillère pour sa première opération, pour que si elle refuse le biberon, on puisse quand même l'alimenter avec de la compote ou avec de la purée, à la cuillère, en fait. Donc, on a démarré comme ça son alimentation avant son opération. Elle avait 6 mois à peu près, et 5-6 mois, et ça s'est toujours très bien passé.
Ça lui plaît ?
Ouais, ça lui plaît. Non, ça lui plaît. Et donc, en fait, voilà. Donc, au départ, c'est nous qui lui donnions à manger pour l'opération. Comme ça, elle était prête le jour J. Elle était entraînée, entre guillemets. Après, elle a eu son opération. Elle a très vite remangé. Et puis, voilà, depuis quelques semaines, on la laisse manger assez rapidement. En fait, on a essayé de la laisser manger par elle-même.
D'accord.
Donc, on est sur un semblant de DME. Voilà, une formule un peu hybride, là. Où elle en met quand même partout, mais on n'est pas sur, voilà, je suis pas sur des grosses têtes de brocoli et je suis pas sur des gros morceaux qui pourraient peut-être se coincer ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, elle se nourrit par elle-même et elle mange des morceaux tendres.
Oui, bah de toute façon, c'est vrai qu'à ce stade-là, classiquement, les bébés commencent à prendre des morceaux qui sont moins tendres, etc. Mais là, t'es resté sur les textures très fondantes, en fait, c'est ça, qui se transforme vraiment.
Après, c'est peut-être moi. C'est peut-être moi en tant que maman qui freine, mais
c'est difficile.
Peut-être qu'elle en est capable, en fait.
Ouais, et peut-être que l'orthophoniste, elle va pouvoir t'aiguiller là-dessus aussi. Donc du coup, bon, l'opération suivante, tu dis peut-être dans 6 mois, l'orthophoniste, il y a d'autres suivis qui sont mis en place pour l'instant ou c'est déjà pas mal ?
Ce matin, on était chez l'ORL.
Ouais.
Parce qu'il y a une fragilité aussi au niveau des oreilles, vu que voilà, tout ça communique à l'intérieur.
C'est-à-dire qu'elle fait plus d'otite ?
Alors, elle pourrait en faire. Moi, elle m'en a jamais déclaré, en tout cas. J'espère que c'est le lait maternel aide un peu, hein, j'avoue. J'ai ça dans un petit coin de ma tête. Voilà, elle m'a jamais rien déclaré. Ce matin, en allant chez l'ORL, elle lui a quand même trouvé une otite. Donc, voilà, à surveiller. Et si besoin, il y a pose d'aérateur à la prochaine opération.
D'accord, oui, ils peuvent tout combiner.
C'est l'idée.
Ok, très bien. Est-ce que tu as pensé à un moment, que ce soit pendant la grossesse ou au moment où c'était compliqué au démarrage, à ne pas l'allaiter du tout et à ne pas te lancer dans ce tire-allaitement qui, j'imagine, ne ressemblait pas du tout à l'aventure imaginée de base ? Ou est-ce que pour toi, c'était simplement une évidence que peu importe la manière, mais il fallait que tu l'allaites ?
Ouais, c'est la deuxième solution, en fait. Je l'avais fait pour ma fille, ma première. Et je voulais à tout prix le faire pour Julia. Je voulais d'autant plus le faire que je savais qu'après, derrière, pour son opération, en termes de cicatrisation et tout ça, ça allait l'aider. Donc l'objectif numéro un, c'était déjà 6 mois. Enfin, 6 mois pour son opération, en tout cas jusqu'à son opération qui était prévue à ces 6 mois. Je savais dans quoi je m'engageais, oui et non. Parce que du coup, du tire-allaitement, j'en avais fait au boulot pour ma grande, quand j'avais repris. Mais voilà, c'était... une fois le midi et une fois dans l'après-midi. Et encore après, c'est assez rapidement tombé en période de confinement. Donc, je ne le faisais plus parce qu'elle était avec moi. Mais c'était clairement la corvée, quoi.
Ouais.
J'ai démarré une expérience de tire-allaitement avec Julia en sachant que ça n'a aucun charme et que c'est complètement mécanique, quoi.
C'est sûr que c'est moins charmant. En tout cas, en plus, quand ce n'est pas le choix de base, c'est sûr que c'est moins charmant que l'allaitement au sein. Ça, c'est certain. Et alors, du coup, sur quel rythme tu t'es calée pour démarrer ? Tu tirais toutes les 3 heures, jour et nuit. Tu as fait ça pendant combien de temps ? Est-ce que tu le fais encore ?
Alors, ouais, j'ai démarré toutes les 3 heures. Après, j'avais une règle que j'ai gardée jusqu'au bout. C'était ne pas mettre de réveil. Et ça m'a sauvée, vraiment, je pense. Ouais.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Est-ce que sur des groupes un peu particuliers et spécialisés, là, j'avais lu, c'est toutes les 3 heures, telle heure, telle heure, telle heure, etc. Et je me suis dit, mais c'est juste pas possible dans ma vie actuelle, en fait, de rythmer autant les choses et de faire ça comme ça. Donc, surtout, la journée, je suivais quand même, j'avais mon horloge, mais la nuit, je laissais faire mon horloge biologique.
Ouais, et l'horloge de ton bébé, j'imagine.
Oui, aussi. Je me rattrapais si besoin.
Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que dans les démarrages, un nourrisson ne te laisse pas vraiment faire des nuits monstrueuses. Donc...
c'est ça. Bah là, du coup, c'est là où, en fait, ce tir à l'allaitement, c'est une aventure de famille. Parce que certes, je suis au centre, mais ça marche parce que mon bébé a accepté le lait. Mon lait a accepté aussi mon lait décongelé par la suite, ce qui n'était quand même pas gagné au début. J'avais plein de stocks au congèle et elle n'en voulait pas.
Ah, c'est vrai, elle faisait partie de ces bébés qui ne voulaient pas du lait congelé parce qu'il avait un goût particulier.
Ouais.
T'as fait quelque chose pour remédier à ça? Je crois qu'on dit qu'il faut le chauffer, tu sais, à 60 degrés avant de le congeler. Est-ce que tu as mis en place une stratégie différente ou...
C'était ingérable, quoi. En termes d'organisation, je ne pouvais pas.
Ouais, c'est l'horreur.
Ça ne passait pas.
Et elle a fini par accepter, du coup, spontanément.
Elle a fini par accepter. Alors, moi, ma solution, ça a été de lire à un moment, quelque part, que ça pouvait marcher dans le premier bip du matin, parce que c'est celui où elle est le moins éveillée et qu'elle a faim.
D'accord.
Et en fait, c'est ça qui a permis de déclencher le... qui a été le déclic.
Ok, et après, elle a accepté, donc du coup, t'as pu lui refiler tous tes stocks. Ah oui, parce que ça, c'est quand même la plaie, t'as des stocks de dingue et bébé n'en veut pas. Oui, j'imagine un peu la frustration. Ouais.
Et aventure de famille aussi, parce que j'ai ma grande, en fait, qui est toujours au sein et qui, quand j'ai la flemme de tirer, elle sait me soulager. Quand je dois partir en voyage ou en rendez-vous, c'est pareil, elle sait prendre le relais si besoin. Du coup, j'ai pas fait d'engorgement. Enfin, voilà,
oui, et puis même, elle a dû entretenir cette
lactation. Elle stimule à fond.
Bah, ouais, bien sûr, ça. Ouais, parce ça. Que enfant vs tire-lait, c'est quand même toujours la succion d'un bébé qui gagne, en tout cas si elle est correcte, pour bien stimuler un sein. Donc elle a dû vachement t'aider à entretenir tout ça.
Ouais. Donc voilà, c'est une aventure à quatre, quoi.
Ouais. Et puis ton conjoint qui t'a aidé beaucoup, j'imagine, qui a pris le relais aussi sur la gestion autour.
Ouais, ma grande difficulté, en fait, c'est qu'une fois que je suis accrochée à mon tire-lait, c'est comment je gère mon bébé. Mais et oui. Comment j'avance mes sujets, parce que accroché à mon tire-lait dans ma chambre, sur ma table de chevet, autant te dire que je faisais rien. Je peux rien faire. Même prendre mon bébé pour lui donner le biberon, je trouvais ça hyper compliqué, quoi. Je pouvais pas aller la chercher dans sa nacelle. Je pouvais pas même la positionner sur mes genoux pour lui donner le bib. Alors voilà, quand j'avais pas le choix, je le faisais, mais c'était hyper sportif et pas intéressant pour elle, pas intéressant pour moi. Enfin voilà, vraiment très mécanique, quoi.
Ouais, très mécanique.
Parce qu'elle était pas contre moi, enfin.
Est-ce que tu as envisagé à un moment, tu sais, ces tire-laits compacts, là, qui sont sans fil maintenant, qui font ?
Alors non, parce que je ne les connaissais pas, ceux-là, mais que je trouve très bien. C'est vrai que c'est royal. Enfin, ça aurait résolu mon problème, quoi. Mais du coup, ma solution, moi, ça a été un tire-lait plus nomade, le swing, là, de chez Medela.
Ouais.
Et du coup, je le mets dans un sac banane. Et puis, j'étends mon linge, je fais ma cuisine. C'est toujours pas pratique pour donner le bib à mon bébé.
Ouais, mais au moins, t'es pas branchée à une prise.
Mais je suis pas branchée à une prise. Je suis pas toute seule dans ma chambre. Je peux déjeuner avec tout le monde. Je profite des trajets voiture. Ça, c'est royal aussi.
Ouais.
Voilà, ça fait partie de mes solutions.
Ok, donc du coup, t'es restée sur du 3 heures la journée, actuellement ?
Non.
Non, t'as calmé le rythme. Elle a pas les mêmes besoins en plus en lait qu'au démarrage.
Ouais, je pense. Et puis non, c'est juste... Enfin, j'ai donné, quoi. Là, il faut que je souffle et que je retrouve ma... faut que je retrouve ma... Je reprenne de l'air, en fait. Enfin,
ouais.
C'est hyper dur comme aventure.
Ah bah ouais, je veux bien te croire, je t'admire. Mais du coup, à quel moment t'as commencé comme ça à dégraisser? Est-ce que c'est peut-être après l'opération, tu vois, après cette première opération où tu t'es dit, allez, on va pouvoir commencer à souffler une fois qu'elle a cicatrisé? À quel moment tu t'es dit, allez, là, je récupère un petit peu de souffle pour moi, de ma vie, de mon indépendance? Peut-être aussi avec deux enfants, l'indépendance, c'est tout un concept, mais, mais quand même, à quel moment, tu vois, tu as pu prendre un petit peu de recul par rapport à ça?
Je pense que assez mécaniquement, déjà la nuit, je pense que au niveau de mon... On parlait d'horloge biologique, mais je pense que quand Julia a allongé chez lui, moi aussi.
Ouais.
Et donc déjà, là, j'ai le tirage de 3 heures qui s'est arrêté assez rapidement. Enfin, assez rapidement, ouais. Peut-être au bout de 2 mois, quoi. Genre, c'était terminé. Et puis... quand est-ce que j'ai freiné, je ne sais plus, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis sur un tirage le matin au réveil, un le midi, et puis un le soir.
D'accord. Ouais, voilà. Donc tu tires 3 fois dans la journée.
J'ajoute ma grande qui tète à son réveil et qui tète le soir en rentrant.
D'accord.
Donc je suis encore à un rythme. Et puis de toute façon, ma lactation baisse aussi. J'arrive plus à tirer autant que... J'ai pas l'explication, mais j'ai peut-être un corps qui fatigue aussi, hein.
Oui, j'imagine la fatigue qui a pu s'accumuler là depuis le début. Ouais.
Oui, et puis même physiquement, j'ai plus tellement de réserves là. Donc voilà, je m'écoute aussi en fait. C'était aussi la clé. C'était de se dire, ok, on se lance dans cette aventure-là. Mais quand il y a un de nous quatre qui pour une raison ou une autre, n'arrive plus à suivre le rythme, on s'écoute et on lève le pied, quoi.
Ok, super. Et alors là, dans un monde idéal, combien de temps tu continuerais de tirer pour l'allaiter, Julia?
Tant que je le vis, tant qu'on le vit tous suffisamment bien.
Ok.
Clairement, l'objectif, il est atteint.
Donc là, c'est du bonus, maintenant.
C'est du bonus, je reprends le boulot dans une semaine.
Ah oui.
Enfin voilà, j'ai donné, je pense, et du coup, je...
Ouais, là, il est temps de récupérer vraiment l'équilibre pour que tu sens que voilà, t'as donné plus un peu que ce que tu pouvais à un instant T où ça te semblait indispensable de le faire pour elle. Là, tu sens que voilà, elle grandit, première opération passée, etc. Et tu te dis que voilà, c'est le moment maintenant de rééquilibrer la balance pour te préserver toi.
Oui, c'est ça.
Ouais, mais c'est hyper intelligent comme façon de faire, parce que c'est vrai qu'après, une fois qu'on est dans le truc, on se dit peut-être aller encore un peu plus, encore un peu plus, encore un peu plus. Et en effet, il faut que tu te respectes toi. Et puis l'équilibre de la famille, c'est hyper important. Elle a quasiment un an et elle est toujours allaitée. Donc et elle n'a pas de préparation commerciale pour nourrisson, elle est que au lait maternel. Ce que tu tires suffit avec la diversification. Bah, génial.
Non, mais là, j'épuise mon stock du congèle, si tu veux. J'arrive plus à. Je tire pas à hauteur de ses besoins aujourd'hui.
Mais t'as encore du stock?
Ouais.
Ah oui, donc il y avait quand même un sacré stock.
Je crois que je mettais 1,2 litre au congèle par jour au tout début. Hein.
Ah ouais.
Ah ouais, j'étais en hyperlactation. Enfin, oui, au tout début, oui.
On t'avait placé en hyperlactation exprès. Enfin, tu vois, ça a été une démarche consciente de te mettre en hyperlactation au démarrage pour forcer la machine et qu'il y ait tout ce qu'il faut pour Julia, ou c'est toi qui fonctionne comme ça et ça avait été un peu pareil la première fois?
Enfin, en fait, mon tire-allaitement, je l'ai fait toute seule, sans être vraiment encadrée. Mmh. Et c'est le jour où j'ai eu mon rendez-vous sage-femme pour la rééducation du périnée, où je lui en ai parlé. Et elle m'a dit, waouh, faites attention quand même, en fait, parce que c'est aussi vos minéraux, vos sels, enfin, c'est vos vitamines, tout ça quand même, quoi. Enfin, ça reste votre corps que vous videz, que vous mettez, pas dans votre bébé en plus, mais dans votre congèle pour l'instant. Donc, donc freinez, en fait.
D'accord, ouais, ça t'a fait une prise de conscience qu'elle te dise ça, ouais, quand même, tranquille, ça va aller.
Mmh.
Ok, très bien. Donc là, bah, finalement, tu te laisses vivre et tu vois ce que t'amène la suite. Si ça doit s'arrêter demain, c'est ok pour toi, en fait.
Ouais, alors je suis pas encore arrivée à ce stade-là, hein.
D'accord.
Dans mon cheminement, mais avec du recul, ouais, je serais fière de ce qu'on a réussi à faire, ouais. Mmh. Est-ce que je le referais Oui. Sûrement, mais punaise que c'est dur.
Ouais.
Qu'est-ce que
t'en auras tiré de cette expérience-là, ouais, tu vois, si tu regardes un petit peu en arrière, peut-être que c'est encore trop tôt parce que t'es encore dedans, mais si tu regardes les 11 derniers mois et ce qui s'est passé, c'est quoi ton sentiment? Ou tes sentiments, parce qu'il y en a peut-être plusieurs qui se mêlent.
Ouais, il y en a plusieurs. En fait, ce tire-allaitement, c'était mon compromis suite à la déception que j'avais pu avoir avec... par rapport au projet que j'avais initialement. C'était mon compromis, c'était... Puis c'est une enfin, ma réussite aussi, c'est qu'aujourd'hui, Julia, elle a 11 mois et qu'elle est passée au travers de tous les microbes. Voilà, hormis les médicaments qu'elle a pris pendant 3 jours après son opération, elle n'a rien eu. Et pourtant, sa sœur est rentrée à l'école au mois de septembre.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Avec donc, une petite de 3 ans et demi, des microbes, il y en a qui arrivent à la maison.
Donc, je pense que voilà, alors après, voilà, est-ce qu'il y a une cause-conséquence ? Je ne saurais jamais. Mais j'ai envie de me dire que je lui ai donné, que par les sacrifices et le temps passé, voilà, je lui ai donné les clés pour être, pour bien la lancer, en tout cas physiquement, physiquement et en termes de, je trouve pas le mot, mais d'anticorps et en termes de...
Ouais, ouais, chimiquement.
De bonnes choses, voilà, pour la suite, quoi.
Donc t'es fière de ça.
Ouais.
Mais voilà, si c'était à refaire, certainement que tu le referais pour la santé d'un bébé, mais... Mais t'as trouvé que c'était un peu trop parfois.
Ouais, bah, en fait, il n'y a pas de répit, quoi. C'est juste que ça fait un an qu'il n'y a pas de répit.
Bah ouais.
Il n'y a pas de répit dans la vaisselle, il n'y a pas de répit parce qu'il faut quand même tout nettoyer, il faut charger le tire-lait, faut...
Bah ouais, c'est du tire-allaitement. D'ailleurs, là, c'est dans le cadre d'une fente labio-palatine, mais en fait, c'est même l'histoire du tire-allaitement de façon plus générale, ça, c'est qu'en fait, c'est hyper demandeur, puisqu'en fait, on double le temps de care autour de tout ça. C'est s'occuper de tirer, du tire-lait, de la logistique autour, et c'est ensuite nourrir bébé dans un second temps.
Oui, et en dehors, comme tu dis, en dehors d'une... Enfin, fente ou pas fente, le sujet est le même, là, pour le coup.
Hein. Ouais, c'est ça, le sujet du tire-allaitement. Ah ouais, ok. Très bien. Et donc, du coup, bah, l'allaitement de ta grande... Elle, qui a 3 ans et demi, tu la vois aller vers du sevrage naturel, du coup, j'imagine, si vous en êtes là.
Bah, oui. Ouais. En fait, puis voilà, du coup, j'ai encore ce contact avec elle. Ça donne du sens aussi, parce que j'ai ce contact avec elle que j'ai pas avec ma grande, et je pense que du coup, avec ma petite. Ouais. Et je pense que du coup, ça, j'y trouve aussi un peu mon compte, même si c'est pas toujours évident d'allaiter encore une enfant de 3 ans et demi. Je trouve que ça demande de l'énergie, quoi.
Ouais.
C'est plus la même chose qu'un petit bébé.
Tu trouves ça plus demandeur ?
Ouais, dans sa façon de faire, je pense, avec ses mains. Ça, je trouve que ça me demande beaucoup d'énergie, en fait. Ouais.
D'accord.
Ouais. Et puis, elle est plus lourde, il faut la porter, il faut... Enfin, ouais, c'est... Elle bouge un peu plus. Ouais. Et puis, je me pose pas trop de questions. Là, elle est pas capable d'arrêter, ça lui permet de démarrer sa journée en douceur pour l'instant.
Okay.
Donc voilà, non, je la laisse faire. Et puis le soir, c'est les retrouvailles. Bon, voilà, je sens qu'elle en a encore besoin, donc pour l'instant...
Tu suis son rythme, et puis
ouais, c'est ça.
Un peu comme pour ton tire-allaitement, tu t'écouteras quand même pour voir si à un moment, toi, ça ne te convient plus, tu aviseras.
Oui, après, elle a son âge, c'est facile, en fait. Enfin, voilà, soit elle tête, soit elle tête pas. Moi, ça change pas grand-chose, en fait. Donc...
Bon, bah, super. Merci, Madeleine, de nous avoir raconté ça. Si à l'occasion, tu veux nous donner la suite des événements, n'hésitera pas à me laisser un petit message sur la boîte vocale de Milkshaker, et on le raccrochera à cet épisode-là pour savoir comment ça évolue et cette autre opération. Et est-ce que toi, voilà, tu laisses à un moment ce tire-allaitement de côté pour te retrouver complètement, plus la reprise du travail qui va arriver, ça va faire quand même pas mal de changements là qui débarquent. Et du coup, Julia va être gardée. Est-ce que la prise du biberon, c'est quelque chose de vraiment, de ce biberon-là, pardon, c'est quelque chose de facile à faire, et que l'assistante maternelle avec qui elle est et au fait tout ça, comment vous y êtes pris ? Ça, c'est intéressant.
Eh ben, écoute, je l'ai laissé la première fois il y a 1h30.
Ah, d'accord.
Et j'ai montré à l'assistante maternelle il y a 1h30. Donc.
D'où le fait qu'on puisse tourner cet épisode.
Donc voilà, je pense que je suis partie et qu'elle a réussi. C'est un coup de main à prendre.
C'est accessible à tout le monde.
Rien de sorcier, ouais.
Ok, très bien. Et l'assistante maternelle elle avait déjà eu un bébé porteur de fente labio-palatine, ou jamais? C'est une première expérience pour elle, t'as pas senti que ça l'inquiétait particulièrement?
Non, du tout. Et puis c'est même une première expérience parce qu'elle débute dans le métier.
D'accord.
Mais c'est vrai que ça faisait partie de mes craintes quand j'ai cherché une assistante maternelle il y a un an et demi, il y a un an. Et voilà, je le précisais bien quand j'appelais avant de les rencontrer, parce que c'est vrai que si ça peut freiner, forcément, que ce soit pour le biberon et aussi pour l'alimentation. pour le coup.
Ouais. Ok, bah écoute, hâte de savoir la suite. On te souhaite une bonne reprise du travail, que la garde de Julia se passe bien, et puis surtout que, bah voilà, que tu continues de chercher et de trouver l'équilibre entre cet allaitement qui est très prenant et ta vie à toi et ton corps que tu as besoin de récupérer. N'hésite pas à nous raconter la suite dans des petits vocaux et je le raccrocherai à ça. Et merci beaucoup d'avoir raconté tout ça. Je pense que ça pourra aider des mamans qui auront, tu vois, ce diagnostic pendant la grossesse, etc. Et de savoir comment envisager la suite, ça fera une expérience parmi d'autres. Et comme vous avez tout en plus des prises en charge qui sont très différentes autour de ces fentes labiopalatines, voilà, je trouve que c'était important de venir prendre différents témoignages.
Merci à toi.
Et puis je te dis à très vite.
Ça marche.
Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Si tu te rends sur milkshaker.fr, tu trouveras tous les épisodes depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Si tu préfères lire ou bien que tu es coincé sous un bébé qu'il ne faut pas réveiller, sache que tu y trouveras aussi le blog de Milkshaker. Chaque semaine, c'est un article qui sort pour avoir accès aux informations délivrées par des professionnels du podcast, et plus encore. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes dans les Hauts-de-Seine, au centre IG4U que j'ai créé en 2020, sur mon site internet charlotte-bergerot.fr, et pour la prise de rendez-vous, ça se passe sur Doctolib. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. À très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
Cross paths on the wrong road. Crossroads on the dinner table.